Ben oui, c'est l'examen du projet de loi pour le plein emploi qui a donc débuté ce lundi à l'Assemblée nationale. L'objectif de ce texte, c'est d'obtenir un taux de chômage à 5% d'ici 2027. Il est plus à plus de 7% aujourd'hui, on le rappelle. Et il y a une mesure phare, c'est de conditionner le versement du RSA à 15 heures d'activité par semaine. On va regarder précisément ce que dit ce projet de loi. Donc, inscription automatique auprès de France Travail, c'est Pôle emploi, signature d'un contrat d'engagement réciproque jusqu'à 15 à 20 heures hebdomadaires d'activité. Et en cas de non-respect, si on ne fait pas ses activités en parallèle, eh bien, on peut suspendre le versement du RSA.
Alors, avant de donner la parole, évidemment, à nos quatre débatteurs, ayons la politesse, tous les deux, de présenter, évidemment, nos deux invités de ce soir. À commencer peut-être par Madame Nathalie Arthaud, que ceux qui votent au présidentiel, même si, pardon de le rappeler, ils ne sont pas forcément très nombreux pour vous, mais quand même, on vous voit à chaque campagne présidentielle, Nathalie Arthaud, donc on a un peu moins besoin de vous présenter, vous, que monsieur Franck. Madame Arthaud, un mot sur ce projet de loi et sur ce qui va se passer à propos du RSA, du revenu de solidarité active.
Évidemment, tout me révolte dans cette histoire. Voilà cette idée que les femmes et les hommes qui sont allocataires du RSA seraient des fainéants, des profiteurs, des parasites, finalement. Et puis cette idée du travail gratuit, et puis cette idée qu'on pourrait leur couper, leur couper le RSA. Bon, il n'y a pas assez de femmes et d'hommes qui dorment dans la rue. Il n'y a pas assez de familles qui ne peuvent pas se nourrir leur môme. Enfin bon.
Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence à réformer ce système? Un chiffre, 6 allocataires sur 10 le perçoivent depuis plus de 2 ans. Ce qui veut dire que la mission de réinsertion, qui est la base, l'objectif du RSA, elle n'est pas accomplie, on n'arrive pas à l'atteindre.
Donc, il y a urgence à lutter contre la misère. Et par ailleurs, moi, ce qui me choque aussi, c'est que... finalement, est-ce que l'État, lui, remplit ses obligations? Il explique qu'il doit accompagner les chômeurs, les personnes au RSA. Il le fait? Non, il ne le fait pas. Il laisse les gens dans la galère. Et c'est comme ça, pour tout, quand on appartient aux classes populaires, qu'on travaille, qu'on soit au RSA ou qu'on soit au chômage.
Oui.
Donc voilà, c'est un classique.
Morin, je le vois bout et
là,
veux intervenir.
Finalement, c'est le monde à l'envers.
Louis Morin,
Nathalie Arthaud, moi, je pense qu'on ne lutte pas contre la misère avec des mesures d'assistanat. La réalité, c'est que le RSA... aujourd'hui, eh bien, souffre d'un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes, il faut les corriger. En premier lieu, vous avez à peu près 1 milliard de fraudes chaque année sur le RSA. C'est pas moi qui le dis, c'est la Caisse nationale des allocations familiales. Vous avez aujourd'hui 2 millions de foyers en France qui touchent le RSA, et le chiffre a été énoncé tout à l'heure.
6 sur 10.
Voilà, vous avez
6 personnes depuis plus de 2 ans.
6 personnes sur 10 qui continuent de le toucher 2 ans après. Ça veut quand même dire que le RSA remplit pas sa fonction de retour à l'emploi. Dans RSA, il y a revenu de solidarité active.
Donc vous êtes d'accord, Louis, pour faire travailler
je suis
les
d'accord
gens qui touchent
pour
le RSA
changer
10 ou 15
le
heures.
Système et effectivement permettre aux gens qui touchent le RSA, c'est-à-dire qui sont exclus de la société, eh bien leur donner l'opportunité d'y re-rentrer. Et c'est la réalité aujourd'hui, lorsque vous êtes en situation d'exclusion et que vous n'avez aucune considération.
À coup de fouet.
Non, c'est pas un coup de fouet.
Si, c'est ça, c'est à coup de fouet.
On vous demande de donner
voilà.
Non, mais moi ce que je constate, c'est que l'esclavage est peut-être terminé en France, mais l'état d'esprit esclavagiste, il est toujours là.
Voilà.
C'est ça la réalité.
On donne de l'argent sans contrepartie actuellement. C'est ça la réalité avec le RSA.
Madame Arthaud, vous êtes la porte-parole d'un parti historique qui s'appelle Lutte ouvrière. Moi qui viens plutôt de ce milieu, ouvrier et paysan, vous savez, il y a une fierté du travail dans le monde ouvrier. Il y a une fierté de pouvoir aller travailler tous les matins. Moi, je suis pour qu'on fasse revenir les gens à l'emploi. Et je suis réservé le RSA uniquement aux gens qui ne sont pas employables. Parce que nous savons très bien qu'il y a une partie des gens dans notre pays qui ne peuvent plus travailler. Ils sont tellement déconnectés qu'ils ne peuvent plus travailler. Donc, on ne peut pas laisser mourir de faim. Donc, pour cette partie des gens qui ne peuvent plus travailler, oui, il y aurait le RSA. Mais après, les aider à revenir peu à peu dans le travail et retrouver cette fierté d'aller gagner son argent et de nourrir sa famille, ben moi, je pense que c'est une belle idée de gauche.
On vous laisse répondre, Madame Arthaud, mais Louison d'abord.
Je pense qu'on a sur le plateau quelqu'un qui est l'exemple de quelqu'un qui travaille, mais qui est parfois dans un métier précarisé par moult choses qu'il ne contrôle pas et qui est totalement obligé d'avoir cette aide-là. On vous dit depuis 2 ans, il y a des gens qui... Il y a 2 ans, on a eu un petit Covid, on a eu quand même beaucoup de choses de secteurs qui ont été ravagés. Bon, si exceptionnellement, pendant 2-3 ans, c'est un peu plus long de se réinsérer, ça ne me choque pas. Je pense que quand on est parti du revenu minimum d'insertion à celui de revenu
solidaire actif,
on s'est fait avoir à ce moment-là, parce que le actif laissait quand même penser qu'on glissait vers quelque chose où On est, pardon, mais sur un travail.
Mais là, ce ne serait pas forcément du travail, d'ailleurs. C'est ce qui précise, ça pourrait être des formations, des heures de conduite pour obtenir le permis, des cours, voilà, des activités.
Pour payer le permis de conduire aux allocataires du RSA. Mais que ne l'ont-ils fait? Et pourquoi cette loi, alors? Pourquoi cette loi, cette épée de Damoclès? Moi, quand je vous écoute, ce qui me frappe, c'est que la plupart des femmes et des hommes qui sont au RSA, mais ils ont peut-être travaillé plus que vous. Ils ont peut-être travaillé plus que vous. Seulement, ils ont été sortis du marché du travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont été licenciés, parce qu'ils ont été brisés, usés par l'exploitation.
Et vous pensez que c'est en les laissant chez eux qu'ils auront l'opportunité de
s'en sortir? Parce qu'un certain nombre de jeunes femmes qui aimeraient pouvoir travailler ne trouvent pas de place en crèche, n'ont pas l'argent pour se payer un permis de conduire. Parce que vous comprenez, quand il s'agit d'aller prendre un boulot à 6h du matin, même dans la région parisienne où il y a des transports en commun, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez
Madame
pas...
Arthaud, je vais donner la parole à Pablo qui, évidemment, j'imagine, sera plutôt d'accord avec vous, et je vais aller un peu dans votre sens, je vais vous faire plaisir, parce qu'il y a une députée France Insoumise aujourd'hui, là, c'est vrai que ça m'a surpris, qui a tweeté, c'était cet après-midi, en direct de l'Assemblée nationale, elle a tweeté, alors il faudra effectivement vérifier si c'est vraiment dans la loi et si c'est vrai, mais que désormais, les 11 000 bénéficiaires du RSA agricole, qui souffrent de la faiblesse de leurs revenus, car on peut travailler effectivement et toucher le RSA en complément, eh bien ils devront faire 15 heures de travaux supplémentaires. Et là, évidemment, la députée dit, mais alors à quelle heure? Avant ou après la traite? Avant 6 heures du matin ou après 21 heures, puisqu'on sait que les agriculteurs travaillent énormément. Là, c'est vrai que si c'est, ce cas est juste, c'est vraiment n'importe quoi. Pablo?
Oui, et j'ose espérer que ça sera modifié au moins par amendement, parce que c'est vrai que...
Ne serait-ce que pour le RSA agricole.
Pour le RSA agricole. Après, sur le débat qui nous anime, moi je pense, et d'ailleurs je pense que Nathalie Arthaud partage ça aussi, c'est-à-dire que oui, il faut mettre le paquet sur la réinsertion. Enfin, je veux dire, si l'État, si les collectivités ont envie de donner du fric pour aider les gens qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi à retrouver un emploi, si l'État a envie de forcer les entreprises ou les collectivités d'ailleurs à embaucher des gens qui sont aujourd'hui au RSA, donc qui n'ont pas d'emploi, mais très bien, allons-y. Le problème de cette loi...
Merci, c'est Fabien, que vous avez redonné le sourire à Madame Arthaud.
Oui, mais le problème de cette loi, c'est qu'elle permet à des gens comme Louis Morin tout à l'heure d'utiliser le mot assistanat, et de vouer aux gémonies tous les gens en fait qui touchent le RSA et qui sont potentiellement des paradis fiscaux
de la solidarité nationale.
Vous avez dit assassinat ou fraudeur, il a commencé à parler des
fraudes. Quand on bénéficie de la solidarité nationale, c'est pas indécent de donner 15 heures de son temps par semaine.
Fin du débat, on y reviendra peut-être dans un instant, mais Nathalie Arthaud pour répondre à Louis Morin.
Non, mais moi je trouve que dans cette histoire, il y a un mépris incroyable, un mépris social, un mépris de classe, et c'est toujours comme ça vis-à-vis des travailleurs en fait. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire que vous voulez leur démontrer que ça serait mieux qu'ils travaillent, mais ils le savent. Ils le savent pertinemment, simplement ils sont dans des situations où ils ne peuvent plus, où la société ne leur permet plus. Encore une fois, ils ont été éjectés. Là, beaucoup ont été licenciés.
Arrêtez de leur faire la morale.
C'est de l'aide. Moi, vous savez, de l'aide. C'est... Alors moi, ce qui me frappe aussi dans cette attaque, et je dirais une attaque contre tous les travailleurs, c'est que c'est toujours la même histoire. Là, on parle de contraintes. On parle d'obligation, on parle de menace. Et vous savez, ça, ces mots-là, ils seront toujours réservés, au bout du compte, aux classes populaires. Parce que quand il s'agit là de Total Énergie, des grands groupes agroalimentaires qui nous rackettent en exposant leurs marges, là, il n'y a pas de contraintes.
Et qui payent des milliards d'impôts.
Il n'y a jamais de contraintes. Ils reçoivent des subventions, mais c'est des milliards. Vous savez quand même que c'est les premiers assistés, c'est 200 milliards. C'est sans condition. On leur donne l'argent et puis on les croit sur leur bonne...
Bien sûr
qu'ils reçoivent de l'argent de l'État.
Frédéric Hermel.
Oui, mais franchement... Mais
je... Et eux, ils ne sont pas contrôlés. Mais on ne leur demande pas de compte.
Mais Madame Arthaud...
Et on les laisse, on les laisse écraser les salaires, provoquer justement cette misère.
Alors, qu'on ne soit pas assez payé en France, je suis d'accord avec vous. Mais c'est autre chose. Ça, c'est un autre débat.
C'est faux. Qu'est-ce qui est faux, Louis Morin?
Mais bien sûr qu'on demande des comptes quand on donne des aides à des grandes entreprises, évidemment. Et bien sûr qu'on a demandé des comptes pour l'octroi des PGE. Et il y a des aides sont toujours soumises à des contreparties. Toujours, toujours. Aux grandes entreprises. Et c'est le cas effectivement ici. Là, vous avez tout à l'heure cité les termes de menaces, de contraintes. Ce sont vos termes, Nathalie Arthaud, en réalité. Les termes qui sont évoqués dans le projet de loi, c'est accompagnement, c'est contrepartie. On peut aussi oui. percevoir cette
mesure comme étant une mesure d'opportunité.
L'art de l'euphémisme.
Et une approche, oui. les amis, oui, au cas par cas. Il y a un amendement qui est soutenu par le gouvernement qui prévoit de lâcher du lest. Ils disent en gros, tout va dépendre des cas de figure. Ça peut être une heure à 15 heures d'activité. Voilà, c'est pas de la contrainte,
parce
c'est
que
pas
certains
forcément
ne peuvent pas,
de
dis,
travail.
Ne peut voilà. plus travailler.
Il y a quand même bien la suspension et la radiation, voilà. au bout du compte.
Louison, qui n'a pas beaucoup parlé.
C'est quoi, sinon une contrainte?
Louison, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que, alors, pour rebondir, moi, je fais un métier qui est aussi celui de la BD, et il y a quelques mois des études qui ont montré la précarisation massive des auteurs de BD, des gens qui sont dans un seuil de pauvreté, c'est 20% quasiment des auteurs. Donc, monsieur n'est pas l'exception. Monsieur est une exception, comme ça, en plateau avec un livre de Gallimard à la blanche. Mais en fait, il n'est pas tant une exception que ça. Il y a beaucoup de métiers qui demandent de faire une petite facture par-ci, de prendre un peu de blague par-là. Et en fait, à la fin, on n'atteint pas le seuil qui permet de... Et on justifie, on doit pointer, on doit faire des choses comme ça, on doit... tous les mois, si on n'a pas pointé le 15, mais que le 16, parce que on a été malade, j'en sais rien, on est radié. Enfin, c'est quand même une vie fliquée.
Avec des contrôles à domicile, hein, vous avez vécu ça.
Absolument. Oui, absolument. Oui,
donc
oui,
c'est quand même une vie assez violent, pour 600 et quelques euros, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, 607 euros pour une personne.
Voilà. Sans imaginer, je ne sais pas si vous vivez dans une grande ville.
Vous êtes l'exception. Seulement 40% des bénéficiaires du RSA bénéficient d'un accompagnement. 60% des bénéficiaires ne sont jamais contrôlés. C'est aussi une réalité. Voilà, donc vous êtes une exception. Vous avez en plus pas de chance parce que ça tombe, les contrôles tombent sur vous, alors oui. que vous avez une activité par ailleurs.
Ça lui permet de faire un livre et de le raconter.
Non, je n'ai pas écrit le livre. Je n'ai pas fait le RSA.
Nathalie Arthaud.
Non, mais moi, je trouve ça complètement dingue. Voilà. Les profits explosent, les grandes fortunes explosent. On sait,
ils payent des impôts.
On sait que toutes les marges ont conduit à cette augmentation de prix qui plonge dans la misère. Mais des femmes et des hommes qui travaillent, des femmes et des hommes qui travaillent, ceux qui, bien sûr, se démènent avec 600 euros. Et on en est où? On en est à les culpabiliser, à les accuser de je ne sais quoi. Mais franchement, on marche sur la tête. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, c'est une menace. Finalement, pour l'ensemble du monde du travail, voilà comment vous allez être traités. Voilà tous ceux qui auront 62 ans, qui ne pourront plus bosser jusqu'à 64, ils seront cassés. Voilà comment vous allez être traités. Et ça, franchement, il faut bien réaliser. Et je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs, justement. Parce qu'il ne faut pas se diviser entre ceux qui ont du boulot et ceux qui l'ont perdu ou ceux qui n'en trouvent pas. Parce qu'il ne suffit pas de traverser la rue pour retrouver du boulot.
Un mot encore sur quand même ce projet de loi plein emploi, parce que ça va nous amener aussi, c'est anecdotique, mais quand même, on se souvient, je reviens à notre génération, de la NPE, puis ça a changé de nom, c'est devenu évidemment Pôle emploi, et ça changera encore de nom, on le sait, à partir de janvier, ça fait partie de ce projet de loi, ça s'appellera France Travail. Ça a changé quelque chose, vous pensez ?
Oui, enfin, je trouve que dans la démarche, c'est très positif.
Elle dit non, Louise.
Remettre le travail au cœur de la société, moi je trouve ça très bien.
Pôle emploi, c'est moins bien que France Travail.
Oui, parce que dans le travail, il y a quelque chose d'honorant, en fait. Ouais. Voilà.
Vous voulez que le mot travail.
C'est mieux d'avoir un travail qu'à avoir un emploi.
Ouais, sauf qu'il paye de moins en moins le travail.
Voilà, c'est ça, mais ça, c'est un autre débat. Et
non,
je suis tout à fait d'accord avec
c'est
vous.
C'est le même débat.
La classe
que le travail
française s'appauvrit parce qu'on n'est pas assez payé. Vous savez pourquoi? Parce que la différence entre le salaire brut et le salaire net est trop grande.
Louison.
Moi, je pense que pour avoir des références de nos âges, c'est comme Twix et Raider. Hein. C'est le même goût à la fin, en fait. Excusez-moi, mais.
Ouais, toi, t'es plutôt Twix et moi Raider. Hein.
France Travail, ça changera quelque chose?
Ça changera au moins, effectivement, la perception, parce que Pôle emploi, c'était quand même terriblement sinistre. Oui. Donc voilà, France Travail, effectivement, c'est plus dans l'air du temps.
Mais France Travail, ça veut dire que tous les Français vont être dans le système.
Non, mais ça, c'est toi qui le dis.
C'est
toi qui le dis.
Non, mais c'est dingue, c'est dingue.
Mais c'est pas moi, c'est la loi.
Tous ceux qui imposent des salaires de misère, tous ceux qui méprisent le monde du travail, qui les humilient, ils se font les chantres du travail. Ah oui, ils aiment le travail. Quand ce sont les autres qui le font, le boulot. Et quand ça leur apporte du fric.
C'est pas moi, c'est pas ma famille, madame.
Si, c'est ça.
Moi, j'ai été élevé dans le goût du travail, madame.
Exactement ce que j'entends aujourd'hui. Finalement, vous savez, aujourd'hui, ceux qui bossent le plus, c'est ceux qui galèrent le plus. Et les véritables parasites dans cette société, ils ne sont pas du côté des classes populaires. Non, jamais.
C'est Bernard Arnault.
Bah, évidemment ce sont tous ceux qui captent aujourd'hui l'essentiel des richesses. Et là, on parle de dizaines, de centaines de milliards. Donc, on est effectivement dans une société d'accumulation à un pôle, avec des espèces, les nouveaux rois des temps modernes, hein, qui
finalement, nous luttons. Nathalie Arthaud, juste une phrase, parce que